CFM, le mag, tous les jours, 12h, 12h30, la vie du Grand Rodez.
Allez, bonjour à tous et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Et restez donc si vous y étiez, parce qu'on va prendre soin de nous aujourd'hui avec l'UTSMA. C'est d'ailleurs le magazine mensuel UTSMAG sur les ondes avec la mutualité française Aveyron pour ce mois de mai. On va parler de tabac. Le tabac, bah oui, c'est tabou. Après, pour en venir à bout, c'est toute une histoire. Autour de la table pour parler de tabac, le docteur Pascal Combe, pneumologue au centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue, qui dispose d'un centre d'aide de sevrage tabagique qui repose sur un accompagnement pluridisciplinaire. On peut peut-être commencer, bonjour Pascal Combe.
Bonjour à tous.
Par une petite présentation du centre, ce qu'on appelle le centre santé, sans tabac, santé aussi, la santé, ici à Villefranche-de-Rouergue, qui est une vraie spécificité en Aveyron et sur l'ensemble du département, puisqu'on dispose de 3 centres d'aide au sevrage du tabac. Comment ça s'organise sur l'ensemble du territoire?
Voilà, tout à fait, c'est exactement ça. Donc, nous avons une spécificité au niveau français, c'est qu'au niveau du département de l'Aveyron, nous avons 3 structures, donc sur Villefranche-de-Rouergue, sur le Rodez et Millau-Sainte-Afrique, qui proposent à toutes les personnes, soit en hospitalisation, mais le plus souvent de façon consultation externe, un sevrage tabagique avec plusieurs professionnels. À la carte, en fonction des besoins, il y a tabacologue, diététicienne, psychologue, avec un suivi qui est sur 1 an, pour 30 euros, ce qui est relativement économique, avantageux, qui nous laisse ensuite la possibilité de pouvoir acheter des substituts nicotiniques sous toutes leurs formes aux besoins.
Claudie Boudet également en studio, infirmière spécialisée au centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue. C'est quoi votre rôle, Claudie?
Alors, tout d'abord, bonjour. Mon rôle, c'est de recevoir les patients, de les accompagner durant toute leur démarche de sevrage, dont nous avons des consultations très fréquentes. Je suis le lien entre le médecin, la psychologue et la diététicienne. Effectivement, nous avons une consultation bien chargée sur Villefranche.
Alors, quand on arrête de fumer, généralement, on prend du poids et c'est là qu'intervient Florence Killing, diététicienne, tabacologue à l'UTSMA. C'est la première des interrogations, j'imagine, pour beaucoup de patients qui souhaitent arrêter de fumer. C'est le poids, combien je vais prendre?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Oui, alors, je suis diététicienne et tabacologue à l'UTSMA, mais j'interviens aussi pour le centre santé sur Rodez. Et il travaille donc en collaboration avec le centre santé Villefranche également. Voilà, oui, le poids, c'est un problème et souvent un frein, on va dire, à l'arrêt du tabac. Et donc, je pense qu'on a notre place, en effet, sur cet accompagnement.
Et pour compléter, en studio, Audrina Martinez, chargée de com à l'UTSMA. Bonjour, Audrina.
Bonjour à tous. Alors moi, ma mission aujourd'hui a été de réunir ces 3 professionnels pour cette journée mondiale sans tabac qui touche énormément de monde en France et partout ailleurs.
Audrina, qui peut le dire, arrêtez de fumer. Bravo, Audrina.
Bravo. Je n'ai jamais fumé.
Ah, c'est important de le dire aussi.
Voilà,
le 31 mai, c'est la journée mondiale sans tabac. Et le 2 juin, à Villefranche-de-Rouergue, une manifestation, un événement nous est proposé au Château de Graves cette année, porté par le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue, accompagné par de nombreux partenaires dont on parlera après une rapide respiration musicale, le temps de fumer une petite cigarette avec San Severino. C'est l'UTSMAG, le magazine mensuel de la mutualité française en CFM.
La cigarette tue tout doucement, 250 milliards de morts par an. Cette maladie si célèbre et merdique est aussi un crabe astrologique. La cigarette, non seulement ça tue, mais ça coûte cher, et puis ça pue. La nicotine te colle aux doigts, tes cheveux sentent le cendrier pendant des mois. Fume, fume cette cigarette, grille des mégots de vieux clopos sur les conseils de médecine, lui dans poumon magazine. Fume, fume et puis oublie les détergents qu'il y a dedans, les bénéfices de l'État, la marche de la Seita. Fume cette cigarette, grille des mégots de vieux clopos sur des conseils de médecine, lutte dans poumon magazine. Fume, fume et puis oublie les détergents qu'il y a dedans, les bénéfices de l'État, la marche de la Seita. Tassimo, avra, develop, zapta, toi, webena, I come to stay, arlo, plus, we, I come to your house, we, 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 we,
c'est Lutzmag, le magazine mensuel de la Mutualité française Aveyron, qui a pour thème en ce mois de mai le tabac, puisque se présente à nous le 31 précisément la journée mondiale sans tabac. On dépose les armes, cigarettes, allumettes, briquets, et on ne fume pas ce jour-là, enfin si on s'en rappelle. Et le 2 juin, une manifestation nous est proposée à Villefranche-de-Rouergue, au Château de Graves. On va parler tabac, peut-être un petit rappel des risques du tabac sur la santé. On peut confier la mission au docteur Pascal Combequella, pneumologue à Villefranche-de-Rouergue. 600 millions de morts, je crois, selon l'Organisation mondiale de la santé. Et en France,
c'est en France, alors on était à 60 000 il y a quelques années, et on est passé allègrement à 73 000. Ça ne fait qu'augmenter. Mais on suit les États-Unis de près, donc ils ont compris un peu avant nous, ils ont fait la prévention, mais nous, on n'a pas encore compris, donc on est encore dans la fuite en avant. Et le tabagisme chez les adolescents ou enfants commence de plus en plus tôt. Les dégâts se font plus jeunes, puisque les cellules sont en renouvellement rapide. Et donc, on a des maladies graves, telles que les cancers, qui font mourir. Les cancers du poumon sont terribles. Et puis ensuite, d'autres pathologies qui font mourir plus tôt. Quelqu'un qui fume a une espérance de vie en moyenne de 7 ans moindre que l'autre. Voilà.
Sur le plan physiologique, comment réagit l'organisme à cette première cigarette ?
Alors, dans la cigarette, il y a 4000 produits, dont la nicotine qui nous intéresse au niveau de l'addiction. Ce sont les goudrons qui vont faire les dégâts, mais c'est la nicotine qui va faire l'addiction. Et cette nicotine va passer des poumons dans le sang, va passer par une circulation très rapide, une courte, vers le cerveau, et va se fixer sur des récepteurs au niveau du cerveau. Et c'est ça qui va nous faire l'addiction. Une fois que la circulation sanguine va vidanger, disons, les récepteurs de leur nicotine, la personne va se sentir en manque et va refumer. Donc ce sont les cigarettes automatiques. La personne se retrouve avec une cigarette entre les doigts sans même y avoir pensé. Ce sont toutes des cigarettes automatiques. La personne va fumer par besoin, par plaisir, et ça, ce sont d'autres cigarettes, ou par détente. Mais il va auto-entretenir cette dépendance physique. Et c'est là où il est coincé, parce qu'il ne sait plus quel est le niveau de dépendance. Si c'est une dépendance physique, si c'est une dépendance comportementale, si c'est parce qu'il a besoin de se détendre. Et donc nous, on va être là pour intervenir, pour faire le point, quelle est la participation de ces différentes dépendances, pour aider la personne à se situer et à l'aider à trouver ses solutions. Mais c'est la personne elle-même qui va trouver ses solutions.
Ah, parce que je vous entends, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution. Hein. On est piégé, on est attrapé, et pourtant si, il y a des taux de réussite qui sont plutôt intéressants, de l'ordre de 30%, je crois savoir.
Alors,
pour le
au niveau national, on est à 23-25%, et au niveau du centre santé, on est 33%.
Sur l'ensemble de l'Aveyron, des trois centres santé.
Voilà, donc
de
on est nettement au-dessus de la moyenne, parce qu'effectivement, on est bien structuré, et il faut effectivement avoir épaulé les gens et avoir plusieurs professionnels, puisque les dépendances sont totalement différentes selon les personnes et les proportions variables. Donc si on ne tape que sur un type de dépendance, soit pharmacologique, soit psychique, soit nutritionnelle, on va rater le reste et la personne va refumer.
Allez, on va laisser un peu d'espace à Claudie Baudet, infirmière spécialisée. Votre rôle, vous nous l'avez décrit. Si on allait un petit peu plus loin sur l'organisation du centre hospitalier à Villefranche-de-Rouergue et de vos interventions au centre santé ici à Villefranche, mais également à Rodez. Hein. Je crois savoir, vous naviguez en Aveyron. Mais
moi, je reste sur Villefranche, mais
voilà.
Effectivement.
Mais des fois, vous allez à la piscine à Rodez.
Voilà, c'est tout à fait ça, je voulais pas vous dire. Voilà, non, mon rôle, c'est surtout de recevoir les patients, savoir quelle est leur intention, les laisser surtout exprimer tout à fait comment ils veulent arrêter de fumer. Parce que c'est une prise en charge qui est quand même particulière et individuelle. Tout le monde ne veut pas arrêter de la même façon. On vient des fois me voir aussi parce qu'on ne sait pas si on va arrêter ou non. Donc le premier rendez-vous, c'est surtout pour faire le point, pour savoir si on veut arrêter, comment on veut arrêter. Et puis de prendre confiance, il y a une relation qui s'établit. Et c'est ce contact qui nous permet justement après de pouvoir aider le patient dans sa démarche. Donc au bout d'un moment, on voit effectivement si il a besoin de l'aide de la diététicienne, si la psychologue peut l'aider aussi dans sa motivation. Et nous le suivons pendant tout son parcours. Un sevrage tabagique, c'est le minimum 4 mois, entre 4 mois et 1 an.
Alors, est-ce que vous les faites souffler, ces patients, dès la première séance, dans ce mystérieux instrument qui a pour vocation de mesurer la dépendance ? Comme ça, vous savez à qui vous avez affaire.
Oui, c'est important, surtout pour le patient. Pourquoi ? Parce qu'il va lui-même évaluer sa consommation. On est souvent très étonnés. Oh, mais moi, je fume pas beaucoup. Je fume 5-6 cigarettes. Mmh. Et puis, on leur a fait un petit schéma avec des équivalences. Et il fume ses 5 ou 6 cigarettes comme s'il en fumait 25. Alors là, effectivement, il y a une prise de conscience cigarettes. Très importante. Et par contre, oh, mais moi, je suis un très gros fumeur. Je fume un paquet et demi. Puis, il les fume comme s'il en fumait 15. Ce qui est pas négligeable. Mmh. Mais effectivement, ça permet de mettre les choses à plat. On ne compte plus maintenant au nombre de cigarettes.
Alors l'autre étape quand on souhaite arrêter de fumer, c'est la question que tout le monde se pose, c'est « Ah là là, je vais prendre du poids, je vais être obligé de changer toute ma garde-robe parce que je vais pas rentrer dans mon pantalon, dans ma jupe, dans ma robe ». Ça c'est très féminin aussi hein, comme démarche quand on arrête de fumer. Peut-être que Florence oui. Killing peut nous en dire un petit peu plus sur les patients que vous croisez. Alors vous pour le coup, à Villefranche et Rodez. Hein.
Que Rodez.
Ok, mais vous venez à Villefranche
à la piscine.
À quoi
Donc chez nous aussi, les personnes voient dans une première intention donc le médecin, le tabacologue, et ensuite à sa demande souvent donc je peux être amenée à rencontrer ces personnes-là. Souvent parce que justement cette peur de prise de poids ou parce que leur histoire a fait qu'il y a déjà eu des tentatives d'arrêt aussi et qu'ils ont pris beaucoup de poids. Donc ces personnes souhaitent me rencontrer à ce sujet-là.
Parce que le tabac a pour faculté de couper l'appétit, donc on retrouve l'appétit quand on
arrête de fumer. On sait aujourd'hui qu'en effet les fumeurs font en moyenne 3 kilos de moins qu'un non-fumeur qui aurait le même âge, le même sexe, les mêmes habitudes alimentaires et d'activité physique. Hein. Mmh. Donc on a parlé de la nicotine tout à l'heure, en effet la nicotine a aussi un rôle sur cette gestion du poids, puisqu'en fait, elle augmente les dépenses énergétiques chez les fumeurs. Et on sait qu'ils ont entre 200 et 300 kilocalories brûlées en plus par jour, tout simplement. Donc ce qui revient à dire qu'ils peuvent avoir entre 100 grammes par jour qu'ils peuvent se mettre en place au moment de l'arrêt du sevrage. Voilà. Alors après, je veux quand même dire que tout le monde ne prend pas de poids. Voilà, il faut savoir qu'il y a à peu près une personne sur trois qui ne prend pas de poids au moment de...
C'est important de
c'est
le
important,
dire.
C'est important, oui, voilà. Alors, on ne peut pas vraiment l'expliquer, puisque vu les mécanismes, en effet, on devrait tous prendre du poids à l'arrêt du tabac, mais certaines personnes ne prennent pas de poids. Et ce n'est pas parce qu'on a pris du poids à une période qu'on va prendre du poids aussi à ce sevrage-là. Voilà. Donc, vous avez parlé de l'effet coupe-faim aussi. Évidemment, il existe. Donc, à l'arrêt du tabac, on a plus cet effet coupe-faim. Donc, l'appétit augmente un peu plus et on va peut-être réintroduire un petit déjeuner, se servir plusieurs fois, etc. Et en sachant aussi que les habitudes alimentaires des fumeurs ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux des non-fumeurs. Que le non-fumeur, entre autres, par une diminution du goût et de l'odorat, va avoir une attirance pour des aliments plus riches en graisse, plus riches en sauce, voilà, des viandes grasses, de la charcuterie en général, des fromages, des choses comme ça.
Et allez.
Donc, si on garde ces habitudes-là, et en plus, si on y associe donc tous ces mécanismes liés au manque de nicotine, on peut avoir en effet des prises de poids qui s'installent rapidement. Voilà.
Vous êtes systématiquement consultée en tant que diététicienne tabacologue, hein, également Florence
oui,
Killing.
Oui.
Les patients passent systématiquement
non,
par vous ou
pas
ça
systématiquement,
dépend des profils.
Bon, après, voilà, il y a des profils, des personnes qui ont déjà un surpoids ou un sous-poids, qui sont toujours au régime depuis des années et qui ont des problèmes de gestion de poids. Des personnes voilà qui ont déjà une très mauvais équilibre alimentaire, des personnes qui ne font pas d'activité physique, il y a des profils en effet que l'on va voir plus souvent. Mais ce n'est pas systématique. Après, je peux voir les personnes qu'une seule fois aussi, simplement pour les rassurer, pour leur dire que tout ce qu'ils font, tout va bien, il faut continuer à faire de l'activité physique, continuer à manger équilibré et tout se passera bien.
J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur les différentes manières de fumer. Alors on peut fumer, alors on en parlait avant de prendre des micros, la chicha, ça m'avait totalement échappé, du tabac à rouler également, des cigarettes électroniques. Est-ce que tout ça, on est dans le même registre? Est-ce que ça fait autant de tort à l'organisme? Est-ce qu'il y a des degrés? Est-ce qu'il y a des préférences? C'est pour se rassurer, se situer aussi quand on est fumeur. Hein. Je crois que la chicha, ça fait énormément de tort. Hein. C'est ce que vous
oui,
nous confiez.
Oui, la chicha, ça fait énormément
Claudie.
De tort. Très souvent, lors d'une séance de chicha, qui dure à peu près entre 1 heure et 2 heures, on fume l'équivalent d'un paquet à un paquet et demi de cigarettes. Donc ça peut être dangereux sur une personne jeune qui fume d'habitude 1 ou 2 cigarettes et qui va prendre beaucoup de monoxyde de carbone. Et il y a eu quelques exemples mauvais, hélas, de personnes qui ont été obligées d'être parties au caisson parce que effectivement après les séances de chicha, elles avaient été dans un état.
C'est pour se réoxygéner le caisson.
Le caisson hyperbare qui force l'oxygène à rentrer à la place du monoxyde de carbone. Sinon, ils sont en manque d'oxygène et ils peuvent tomber dans le coma.
Chicha, tabac roulé, cigarette électronique. Alors on est dans une explosion depuis quelques années des cigarettes électroniques. Moi, j'y fais pas confiance personnellement. Je sais pas pourquoi, mais j'ai du mal avec cet objet. Mais...
Pour en revenir au tabac roulé, moi, je tiens surtout à en parler parce que les jeunes ou les personnes qui ont des fois des moyens un petit peu réduits achètent du tabac roulé parce que effectivement, c'est plus économique. C'est plus économique financièrement, mais pas pour leur santé. Et on considère en moyenne qu'une cigarette roulée, selon comment on la fume, parce que personne ne fume de la même façon, équivaut entre 3 à 5 cigarettes normales, manufacturées.
Avec ou sans filtre, parce qu'on peut
sans filtre.
C'est exactement pareil.
Oui. D'accord. Parce qu'effectivement, la combustion du tabac étant plus forte, ça dégage beaucoup plus de monoxyde de carbone.
Docteur Combes, sur les poumons, la cigarette électronique, c'est quoi?
C'est
de la vapeur d'eau, d'ailleurs. Enfin, c'est de la vapeur.
Voilà. Alors, cigarette électronique, ça paraît très, très alléchant parce que, on a, en théorie de la nicotine et puis rien d'autre à côté, pas tous les goudrons. Donc, il est certain qu'on est 10 fois meilleur en fumant la cigarette électronique qu'une cigarette normale. Il y a 2 soucis. Le premier, c'est que, on a des quantités de nicotine au millilitre qui sont limitées. Et un très gros fumeur va être en manque de nicotine. Va tirer énormément sur sa cigarette électronique, va être insatisfait et va finir par soit l'arrêter, soit fumer et vapoter en même temps. Bon. Ça serait un problème, bon, simple. Mais c'est pas satisfaisant pour certains, effectivement. Et puis la gestion n'est pas tout à fait la même. L'autre problème qui est plus sur du long terme et qui nous pose problème en tant que pneumologue, c'est qu'on ne sait pas du tout à long terme ce que fera la déposition de cette entre guillemets, vapeur d'eau, mais auquel on rajoute des tas de parfums. Alors, parfums, certes, qui sont connus, puisqu'ils sont utilisés dans l'industrie alimentaire, donc on en consomme au quotidien. Sauf que dans le tube digestif, on a les enzymes pour les digérer. Dans les poumons, pas forcément. Donc, sur les dépositions sur le long terme, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Sur le court terme, on a vu des pneumopathies aiguës, sévères, arriver en réanimation. Il y en a eu 2 ou 3 sur Lyon, au tout départ. Ces produits ont été retirés. Donc, sur les problèmes aigus, a priori, on est hors de danger à l'heure actuelle. Mais sur le long terme, on ne sait pas. Donc, moi, ce que je conseille, c'est plutôt d'utiliser des substituts nicotiniques qu'on connaît, c'est-à-dire par voie orale, en spray, en patch, plutôt qu'en inhalation. Parce que la déposition, gros point d'interrogation sur le long terme. Et puis, si quelqu'un a essayé la cigarette électronique et qu'il se sent bien avec et qu'il a pu arrêter la cigarette,
tant mieux.
Ben, on va l'aider, tant mieux. Mais on va l'aider ensuite à se sevrer pour ne pas rester des années avec sa cigarette électronique. Parce que sinon, sur le long terme, quid, on ne sait pas. Et on ne voudrait pas se retrouver avec des insuffisances respiratoires secondaires à cette déposition-là.
Alors ça, c'est ce qu'on évoquait également en aparté, c'est le Champix, le Ziban, ces produits complémentaires pour arrêter de fumer. De la même manière, on passe d'une dépendance à une autre. L'idée, en passant par le centre santé, c'est de contourner tout ça.
Alors, il y a des médicaments qui peuvent aider. Ils ont des effets secondaires, ce sont des médicaments. Ils ont des indications limitées, des effets secondaires, donc on se méfie. Et j'essaie de ne pas surmédicaliser et de rester le plus physiologique possible. Donc effectivement, par les substituts nicotiniques, on n'est pas dans la surmédicalisation et pas dans les effets secondaires. Un fumeur ne va jamais tirer trop sur sa cigarette et au même titre, il ne va pas prendre plus de nicotine en patch ou en pastille que de raison. Sur les comprimés, c'est un petit peu différent. Donc, effectivement, on va privilégier plutôt des méthodes plus physiologiques.
J'évoquais la cigarette espagnole. Pardon, Audrina Martinez.
Oui. Comment peut-on expliquer le fait que la volonté de l'État, c'est d'augmenter le prix des paquets de cigarettes pour justement essayer de faire diminuer le fait que tout le monde en achète et or que là, on comprend bien qu'on est de plus en plus nombreux à fumer alors que les paquets sont de plus en plus chers?
En fait, les augmentations de prix de cigarettes auraient dû être beaucoup plus importantes. Ce sont des augmentations qui sont très modérées et relativement éloignées. Oui. Ce qui fait que le fumeur, il est en manque, il ne va pas se priver, il va faire une petite concession, mais le prix n'est pas significativement augmenté. C'est pour ça que les gens ne s'arrêtent pas. Dans d'autres pays, ils ont fait des augmentations beaucoup plus importantes et là, ils ont eu des résultats. En France, on est timoré. Le pouvoir des cigarettiers est là. Et ils ont bien empêché de faire des augmentations qu'il aurait fallu faire.
Bon, l'État a des intérêts aussi, hein, puisque
exactement,
l'État
les taxes sont là.
Donc là, c'est la méthode du voleur chinois, petit à petit. Hein. C'est ce qu'on peut entendre. On n'a pas parlé du cigare. Le cigare, est-ce que parce qu'on le fume pas, le cigare n'avale pas la fumée, est-ce qu'il fait autant de tort que qu'une cigarette? Moi, je m'étais dit ça. Je vais arrêter de fumer. Je vais fumer des petits cigares comme ça. Et puis on finit par les fumer ces cigares parce qu'il manque quelque chose. Hein, faut admettre, docteur.
Bah c'est pire, hein. raté.
Et mince, ben on trouve des stratégies, hein.
Les fumeurs de cigares ont le taux de nicotine le plus haut.
Ah,
voilà.
D'accord.
Donc c'est pas une bonne idée. Les cigarettes légères, c'est pas une bonne idée non plus. Dans un autre sens, c'est-à-dire qu'elles sont dites légères. Ça permet de déculpabiliser le fumeur, certes, mais en pratique, il y a effectivement un peu moins de nicotine. Mais du coup, le fumeur, il est pas fou, il est en manque. Donc, il va tirer davantage. Donc, il va inhaler plus profond. Et donc, il va avoir un petit cancer qui va se développer beaucoup plus au fond et qu'on trouvera beaucoup plus tard.
D'accord.
C'est pire.
Non, le plus simple, c'est d'aller voir un centre santé. Hein. Ça paraît une solution plutôt déjà abordable. 30 euros par an pour un accompagnement avec pneumologue, diététicien, diététicienne, psychologue, infirmière spécialisée. Voilà, Villefranche. C'est mon côté Michel Drucker, hein, qui me force à vous poser cette question. Un bel exemple de combat de sevrage tabagique, quelqu'un que vous avez croisé qui était vraiment à 4 paquets par jour, 3 déjà c'est beaucoup, et qui a réussi à s'en sortir, ça vous vient là à l'esprit ou ça n'arrive jamais?
Si. Oui, ça arrive.
À 30% doit y en avoir quand même. Vous vous rappelez
de
quelqu'un sans donner son nom?
3-4 paquets, oui.
Ah, 3-4 paquets quand même.
3-4 paquets, on en a, je ne dis pas tous les jours, mais on en a fréquemment. Mais pour nous, on préfère les gros fumeurs aux petits fumeurs.
Faut nous expliquer.
Oui, les gros fumeurs, on se dit, bon, ben, on va y arriver. S'il est motivé, on se dit, on va y arriver. Le petit fumeur, il est moins motivé, généralement.
Il est moins en danger, peut-être.
Non,
c'est pas une question de danger.
Il est autant en danger, c'est parce que lui, il croit qu'il n'est pas en danger.
D'accord.
C'est pour ça que c'est difficile. Alors que le gros fumeur, oui, 4 paquets quand même, maintenant je joue ma santé. Alors que le petit fumeur, il la joue autant. Simplement dans le temps. Un exemple, quelqu'un qui fume un paquet, quelqu'un qui fume 4-5 cigarettes, on a à peu près les mêmes résultats, sauf que celui qui fume un paquet, il les aura peut-être 5 ou 6 ans avant, c'est tout. Et puis le gros fumeur, c'est une dépendance essentiellement pharmaceutique. Donc si on lui met la bonne dose de nicotine, c'est bon, il s'arrête de suite.
Oui,
le petit fumeur, c'est souvent comportemental. Il fume pas le matin, il fume le soir, il fume pour rêver, pour écrire, pour peindre, pour voilà. Et donc il a tas de bonnes raisons, et puis comme il fume pas beaucoup, c'est pas très grave. Donc, ça sera beaucoup plus compliqué. C'est une dépendance plus psychologique.
Il faut absolument qu'on parle du 2 juin et de la manifestation qui est organisée et portée par le centre hospitalier de Villefranche de Rouergue. De rappeler que le 31, ben oui, il faut déposer les armes. C'est la journée mondiale sans tabac.
Donc, tous les ans, on fait des manifestations. Donc, l'an dernier, on a fait une manifestation au théâtre. Il y a 2 ans, au niveau de l'Halle. Auparavant, on a fait une sensibilisation dans le cloître. On a rassemblé 250 élèves.
Vous scénarisez toujours cette journée. Hein.
Absolument, c'est important. Donc, c'est important de dédramatiser. D'expliquer ce qui se passe, les bénéfices qu'on peut avoir à arrêter de fumer, surtout. Hein, parce que les gens voient bien les conséquences, ils savent bien. Mais ils ne savent pas le gain qu'ils peuvent avoir en s'arrêtant de fumer. Et ils ne savent pas qu'ils peuvent arrêter beaucoup plus facilement qu'ils ne le pensent. Ils pensent toujours que c'est surhumain. Et d'ailleurs, le 31 mai, bah, c'est une journée un peu test. Tombez les armes, arrêtez votre cigarette. Ouais, et si vous n'y arrivez pas, ça veut dire que vous avez une dépendance. Donc, bienvenue.
Voilà, faut vous rencontrer. Ça s'appelle 3 nanas, 2 mecs et blablabla. Bla bla. À suivre le 2 juin au Château de Grave cette année, porté par le centre hospitalier. Puis toute l'équipe. Hein,
oui, il y aura toute une animation tout le long de la marche. Nous suivrons la marche de façon ludique. Et à l'arrivée, il y a plusieurs animations qui sont... Cette année, c'est sur les 5 sens.
Avec une marche surprise à découvrir.
Ouais.
Audrina, un petit mot à rajouter sur ces interventions. Bravo encore d'avoir arrêté de fumer grâce au centre santé, en tout cas. Si, il faut encourager.
Mais si j'avais été une fumeuse, oui, j'aurais fait appel à ces professionnels.
Ça donne envie.
Oui,
totalement.
Ça donne du courage, je trouve, puisqu'on a l'impression que c'est tellement difficile, mais non, quand on est bien entouré, et puis c'est tellement mauvais pour la santé aussi qu'il faut se soigner. Donc oui, le 2 juin, venez participer à cette marche où vous retrouverez tous les collaborateurs, tous nos partenaires. C'est une journée importante de soutien et de prévention aussi. C'est le moment de dire que fumer tue et que maintenant on s'arrête et qu'il le faut. Vous retrouverez tous ces éléments sur notre site internet utsma.tm.fr. Vous le tapez sur internet, vous nous trouverez Utsma. On le mettra sur notre site internet, la date, le lieu et toutes les informations nécessaires.
C'était l'Utsmag, le magazine mensuel de l'Utsma, la mutualité française Aveyron, avec aujourd'hui dans les studios, pour parler de tabac, le docteur Pascal Combe, pneumologue au centre hospitalier de Villefranche de Rouergue, Claudie Boudet, infirmière spécialisée, Florence Killing, diététicienne tabacologue, et Audrina Martinez, chargée de communication à l'Utsma. Merci beaucoup de nous avoir éclairé, de nous avoir fait peur un peu. Moi, j'ai un peu les miquettes, là. Et je fonce vous voir. Je prends rendez-vous dès la semaine prochaine. Merci beaucoup.
Merci.
À bientôt.
CFM, le MAG. Tous les jours, 12h, 12h30. La vie du Grand Rodez.